Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle chronique où nous allons aborder un thème récurrent, la question de l'avenir ou du déclin du capitalisme. Ce n'est plus d'ailleurs seulement du point de vue de Karl Marx, ou plus près de nous de Joseph Schumpeter, qui consultait que les dimensions sociales condamnaient à terme le capitalisme. Ce sont bien les économistes, les philosophes, les sociologues contemporains qui se posent cette question. Alors, faut-il désespérer du capitalisme ? On pourrait le penser, on pourrait le craindre. En témoigne le pic de parution enregistré sur le thème du capitalisme en cette année 2008, symptomatique du doute croissant qui s'est emparé depuis une décennie de ses auteurs. Ces désordres du capitalisme, du professeur Michel Aglietta et de Laurent Berryby, qui ont fait paraître un ouvrage qui a été reconnu par le prix Turgot et qui est paru chez Odile Jacob, inquiète au point de poser clairement la question de son avenir même. Mondialisation, globalisation, crise, bulle, rupture en profondeur du système financier planétaire alimentent de façon récurrente ces interrogations. Chacun sent, plus ou moins confusément, voire après mûre réflexion, que l'ère du capitalisme triomphant, le pire des modèles, selon l'expression bien connue, à l'exception de tous les autres, touche à sa fin. Les critiques portant sur ses excès l'emportent sur l'éloge de ses vertus, les cassandres se multiplient, les thuriféraires se font rares. Les conditions de l'émergence d'un capitalisme mondial, progressivement puis définitivement admis, après l'effondrement du bloc soviétique, paraissent de moins en moins réunies. Déjà, Jean-Luc Gréaud, économiste proche des organisations patronales, s'interrogeait en 2005 sur l'avenir du capitalisme dans un livre paru chez Gallimard, vision prémonitoire qui lui valut une nomination au prix Turgot. Il avait repéré dans le fonctionnement du capitalisme mondial de nombreuses anomalies dont découlaient les crises financières, notamment dans les pays émergents, la fuite en avant de l'économie américaine tirée par sa dette et par des déficits devenus incontrôlables. Cette crise, soulignait-il, c'est d'abord celle de l'économie dominante américaine et les déficits sont devenus structurels. D'où l'appel à un néo-protectionnisme d'une régulation qui, par grandes zones économiques, permettrait de maîtriser cet essor du capitalisme, une forme de protectionnisme, rappelait-il, que déjà, à travers les autres étapes de développement du capitalisme, nous avions connues. Pour quelles raisons d'ailleurs, on peut se le demander, cette phase de mondialisation et de globalisation ne pourrait pas s'accompagner d'un certain protectionnisme, d'une certaine organisation. Plus récemment, Naomi Klein pointait du doigt la montée du capitalisme du désastre dans son best-seller qui est paru chez Actes Sud, La stratégie du choc, c'est-à-dire une forme de corporatisme liant les grandes entreprises de l'État tout-puissant et combinant leurs formidables puissances respectives pour mieux contrôler les citoyens. Ce que le président Clinton synthétisait dans une formule lapidaire, la mission sacrée de recueillir plus d'informations possibles. Les technologies de l'information vont de pair avec la recherche de nouveaux marchés, conséquence bien entendu désastreuse, d'un point de vue de la liberté des citoyens et tout simplement de la démocratie. Toutefois, ce nouveau consensus appelle à la prudence et renvoie à une série de questions. Comment en est-on arrivé là ? À qui la faute ? Quels sont les risques de cette évolution ? Quelles solutions sont envisageables ? Interrogation d'autant plus justifiée que les alternatives crédibles au modèle capitaliste ne sont pas légion. Les utopies des États religieux, révolutionnaires et anarchiques ne paraissent pas devoir, et c'est heureux, récolter l'enthousiasme des démocraties. Fort opportunément, au fil des pages de 3 parutions récentes, apparaissent des éclairages qui sont autant d'éléments de réponse. Nous allons donc nous poser la question des responsabilités en jeu. D'où viennent ces dérives ? Deuxièmement, sur les risques qui en découlent pour la planète et l'économie. Et enfin, sur les nouvelles perspectives que proposent les auteurs à travers les solutions qu'ils avancent. La nouvelle économie est le renouvellement de la pensée économique en rupture avec la pensée néolibérale et le consensus des économistes. Restera à voir où est l'intérêt que représentent les apports et des nouvelles promesses des sciences qui jusqu'alors étaient éloignées de l'économie, la psychanalyse et la philosophie. On lira de façon utile le livre paru chez Pouf, Macropsychanalyse de l'économie de l'inconscient en 2007 et qui a été écrit par Gérard Marek et Vivien Lévy-Garboua, de la même façon que le Tractatus Economicus Philosophicus de Pascal Blanquet est paru chez Economica et rappelle en quelque sorte que l'économie peut aussi intégrer des regards d'autres disciplines. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet après une courte pause. Faut-il donc désespérer du capitalisme ? Et pourquoi ? À qui la faute ? Le supercapitalisme, un ouvrage qui vient de paraître chez Weber par M. Robert Reich, qui est un Américain et qui a écrit un remarquable ouvrage de 276 pages à 29 euros, éclaire de façon lumineuse cette question. L'auteur considère que les difficultés principales du capitalisme proviennent de sa mutation génétique vers un supercapitalisme dont l'Amérique est l'exemple le plus élaboré, aboutissement prévisible des marchés devenus intensément concurrentiels. Une logique qui, sous la pression de l'économie mondialisée, a permis aux consommateurs de prendre le pas sur le citoyen. Progressivement, les personnes morales se sont substituées en droit et en légitimité, rappelle-t-il, aux personnes physiques. Ce sont donc les entreprises, placées sous pression concurrentielle et exerçant un lobbying excessif, qui exerceraient une influence déterminante sur les décisions politiques, prétendument d'intérêt général. De facto, ces intérêts privés collectifs ont pris le pas sur ceux de la collectivité. Les garde-fous autorégulateurs, mais y en a-t-il, du système capitaliste ont failli et ont faibli. Et les outils traditionnels de régulation sociale, redistribution, fonds de services publics, ont perdu de leur sens et de leur impact. Aussi, on peut s'interroger avec l'auteur de cette perversion fondamentale du système symbolisée par le supercapitalisme qui réside dans la confusion des rôles respectifs des entreprises et des citoyens. Les entreprises, rappelle-t-il, et c'est une évidence, ne sont pas des personnes ni des êtres humains, mais des fictions juridiques. Le résultat de ce sophisme a permis aux entreprises de s'octroyer des droits et des devoirs qui n'appartiennent qu'aux citoyens, menaçant ainsi le processus démocratique. Le supercapitalisme, selon lui, a balayé les certitudes qui, depuis les Lumières, voulaient que la liberté des marchés, c'est-à-dire le capitalisme, et la liberté politique, c'est-à-dire la démocratie, aillent de pair, tout en favorisant la paix. À l'exception, je le rappelle, notable de Milton Friedman, qui considérait que le capitalisme n'est pas nécessairement suffisant pour la liberté, ou alors Adam Smith et Anne-Robert Jacques Turgot, qui postulaient que le progrès social est engendré par une progression complexe et par étapes prévisibles des économies. Aussi, l'auteur ouvre le champ d'un nouveau chapitre, celui de l'ordre moral, dans des solutions qu'il préconise, et notamment pour redonner clairement à chacun son rôle. Au capitalisme de satisfaire le consommateur et les investisseurs, et au processus démocratique, indissociable d'une prise de responsabilité des citoyens, d'atteindre collectivement les objectifs qui ne sont pas réalisables individuellement. Autrement dit, ce que demande Robert Reich et qu'il préconise, c'est de remettre l'homme au centre du dispositif et de la logique même du capitalisme. Or, cette répartition des rôles est selon lui violée lorsque les entreprises prétendent assurer des responsabilités sociales au nom du citoyen ou qu'elles utilisent la politique pour renforcer ou exploiter des positions concurrentielles. Des choix fondamentaux de société qui s'inscrivent bien entendu en rupture avec d'autres choix, éthiques et moraux, et qui doivent revenir aux individus et en extraire de la sphère économique et des pesanteurs des ordres du bas, selon l'expression de la philosophe Simone Weil. Business et politique, à chacun son rôle. À qui la faute ? Donc, on peut y revenir avec un autre constat qui touche là plus à la culture du nouveau capitalisme. C'est d'ailleurs le titre de l'ouvrage d'un autre Américain qui s'appelle Richard Sennett et qui a fait paraître chez Hachette un petit fascicule très intéressant pour 6,90€, 157 pages, et dont le thème est précisément la culture du nouveau capitalisme. Sa thèse est fondamentale. Elle se résume à une interrogation, l'instabilité comme seule constante, le thème majeur de réflexion des économistes, et les sociologues et les philosophes ne sont pas en reste. Il est savoureux d'ailleurs de constater que ce sont les gardiens du temple américains qui là encore se montrent les plus critiques. La crise financière mondiale, dont l'ampleur ne cesse d'étonner, les soubresauts des marchés, l'émergence et la disparition aussi brutale qu'imprévisible des pans entiers de l'économie favorisent cette remise en cause du modèle. Jamais, selon l'expression de Joseph Schumpeter, la destruction créatrice n'a montré autant d'énergie qu'avec l'économie financière moderne. Ce surcroît de troubles est présenté par ses auteurs comme progrès et le prix à payer pour une nouvelle page de l'histoire. Tout ce qui était solide, bien établi, se volatilise, avait annoncé Marx. Mais les conséquences néfastes de ce supercapitalisme dépassent l'économique et le financier pour blesser le social. Une fragmentation sociale qui déstabilise les institutions et les individus, la fin du travail à vie, nul n'est plus propriétaire de sa fonction, les lieux de travail ressemblent davantage à des gares de chemin de fer qu'à des villages, la vie familiale est déstabilisée par l'exigence du travail, la migration est l'icône de la mondialisation, et l'auteur rappelle « on s'installe plus, on déménage ». Richard Sennett examine dans ce brillant essai les ruptures qu'introduit la culture de ce nouveau capitalisme, quelles valeurs et pratiques peuvent souder les individus quand les institutions se fragmentent. L'auteur propose trois voies qui sont autant de défis. D'abord, se gérer soi-même. Ensuite, pratiquer un idéal du métier. Car les hommes, depuis la nuit des temps, aiment faire une seule chose vraiment bien. Et ceci, ils peuvent le faire par une volonté de recyclage à travers des cycles courts. Enfin, ce nouveau être idéal, adapté à la culture émergente, doit faire table rase en permanence du passé, ce qui est assez douloureux, pour s'axer sur le court terme et focaliser sur le potentiel, c'est-à-dire, selon son expression, sur la méritocratie plus que sur le métier. L'auteur doute toutefois que le triomphe de la superficialité au travail, dans les écoles et en politique, puisse durablement correspondre aux aspirations des personnes qui souhaitent s'ancrer dans la vie et en tâchant, selon son expression, de bien faire quelque chose dans le seul but de le bien faire et durablement. Voilà de quoi alimenter le débat sur la valeur travail, dont les jeunes générations considèrent qu'elle n'est plus une valeur morale, mais une simple contrepartie de leur contribution. Ceci, en soi, représente une autre forme de débat. Voilà pour le constat. Faut-il en conclure, tristement, que tout est désespéré ? Nous allons regarder avec le cercle des économistes, dans leur, et notamment dans leur dernier ouvrage, quels sont les risques que présente cette dérive du capitalisme. Nous reprenons pour traiter maintenant, avec le cercle des économistes, des risques de cette dérive du capitalisme. À travers leur excellent ouvrage, La guerre des capitalismes aura lieu, paru chez Perrin, 217 pages, 14,80 €. Ils traitent donc abondamment des risques liés aux remises en cause même du capitalisme. L'originalité de cette approche tient à ce que les auteurs trouvent autant dans la diversité des formes du capitalisme des éléments de conflit plutôt que dans une compétition éventuelle avec d'autres systèmes. Sur ce plan, pour eux, la messe est dite, on aimerait le croire. Certes, souligne-t-il, le modèle capitaliste anglo-saxon, qui a le plus bénéficié de la phase d'expansion de l'économie de marché, et notamment, bien sûr, après la chute du mur de Berlin, s'est inséré partout dans le monde, mais il n'a pas réussi à s'imposer comme modèle unique. D'autres formes de capitalisme viennent le cannibaliser et se sont développées. Le capitalisme familial, en Europe du Sud, au Mexique, mais aussi en France et au Benelux, tandis que les démocraties dites populaires, la Chine, la Russie ou les pétrodictatures du Moyen-Orient, ont favorisé l'expansion du capitalisme d'État, financé par les excédents des paiements courants. L'intrusion des fonds souverains, et on les a vus particulièrement agir dans la crise financière et bancaire mondiale, sont particulièrement visibles et notamment prennent des participations très importantes dans le capital des grandes banques. Est-ce un signe annonciateur d'une guerre des capitalismes ? Le capitalisme mondial, pacifié, conjuguant liberté et prospérité, est-il, dans ses principales places fortes, américaines, anglaises ou européennes, pris d'assaut ? C'est la question que se posent les économistes du Cercle des économistes, sous la direction de Jean-Hervé Lorenzi, et passe au crible ces menaces, les formes et les enjeux de ce conflit. Sans aller jusqu'à la catastrophe, car le progrès, disent-ils, naît de la différence, parce que l'économie doit respecter la diversité des valeurs, parce que la concurrence a un rôle positif, la diversité des capitalismes est une chance, autant qu'un risque majeur. Aussi avancent-ils à leur tour des pistes de résolution de ces difficultés, construire un conseil économique mondial susceptible de créer un ordre économique international plus juste, dans lequel une nouvelle répartition des rôles des grandes nations se ferait jour, et où l'Europe, c'est le classique dégagé européen, où l'Europe, fort justement, se trouverait au cœur de cette dynamique. C'est d'ailleurs l'occasion de souligner le remarquable ouvrage du président Hervé de Carmoy, qui, à travers son néologisme, l'Euramérique, a déjà avancé des éléments de reconstruction et de stabilité du capitalisme mondial. Mais d'autres réponses se font jour. Certaines sont qualifiées d'utopiques, telles que celles qui sont avancées par les altermondialistes. D'autres paraissent plus justement se rapprocher de la grâce, selon l'expression de la philosophe Simone Weil, et s'éloigner de la pesanteur. Ce sont des propositions de rupture de l'approche classique. Le prix Nobel de la paix, notamment, Muhammad Yunus, qui a proposé cette remontée vers les ordres du haut, cette avancée notable vers la grâce. Comme le disait André Comte-Sponville, au moins un peu, au moins parfois. Une remontée de celle d'un homme d'État, par-delà les contraintes économiques et techniques vers la politique, celle d'un homme de bien, de la politique vers la morale, celle d'un homme de cœur, de la morale à l'amour. Muhammad Yunus a donc fait paraître en 2008 chez Lattès un ouvrage remarquable vers un nouveau capitalisme, dans lequel il présente sa vision, celle d'un nouveau modèle économique associant le libre fonctionnement du marché à la recherche d'un monde plus humain. Il est convaincu que la puissance du capitalisme peut mieux contribuer à l'éradication de la pauvreté et à la réduction des inégalités. Sans doute a-t-il raison, mais il nous faudra du temps. La révolution qu'il a d'ailleurs amorcée s'est répandue dans le monde par le microcrédit, initié au Bangladesh voici 30 ans, de même que l'intérêt porté à ces initiatives par de grands groupes internationaux, on citera à l'évidence Danone et le groupe Crédit Agricole, ce qui montre assez que le capitalisme peut exister autrement, une forme complémentaire au modèle classique, le social business. La Banque des pauvres se propose de développer des entreprises nouvelles qui pourraient offrir aux populations des biens et des services à des prix inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises exclusivement mues par le profit. Une grande remise en cause. Des entrepreneurs qui gagnent de l'argent sans maximiser le profit, qui diminuent leurs coûts en absorbant une partie de leurs résultats, qui privilégient le très long terme et l'avenir de la planète au court terme et à ses excès. Cette vision d'un capitalisme plus juste et plus humain est celle d'un docteur en économie et qui donc sait de quoi il parle, loin d'être donc simplement un utopiste. Seule cette approche est susceptible, dit-il, de pérenniser le modèle du libéralisme économique qui certes a permis un accroissement significatif du bien-être d'une large partie de la population mondiale puisque la richesse par individu a très largement progressé, mais qui se trouve aujourd'hui confronté par ses excès à des contradictions menaçant son existence même. Non, la microfinance n'est pas une utopie. Sans doute n'est-elle que la résurgence d'une très belle histoire dont les plus belles pages ont été écrites au début du siècle dans le monde coopératif et mutualiste, relevant le défi du développement par la solidarité. Aider les plus faibles, lutter contre le creusement des inégalités et la persistance de la pauvreté, c'est aussi se sauver soi-même, en fermant la porte aux intégrismes, aux sectarismes de toutes sortes, dont la progression se nourrit des malheurs du monde. Le capitalisme est soumis à la pesanteur des groupes. Il est temps pour lui de faire autrement et de retrouver la grâce, à défaut de la morale qui appartient à l'individu, c'est-à-dire cette capacité à remonter dans cette pente que les groupes ne cessent de descendre, retrouvant ainsi des valeurs sans lesquelles aucune réussite est durable, la lucidité et le courage. Aussi, en conclusion, je voudrais affirmer que j'ai la conviction que rien n'est perdu. Il n'y a pas lieu de désespérer du capitalisme. Bien sûr, les crises sont longues et durables, Mais les cycles sont aussi celles de la vie et des hommes. On peut faire autrement, d'autant que les apports d'autres sciences vont venir enrichir les approches des économistes. On verra, je le disais en début, en introduction, de façon très utile, les apports de la macro-psychanalyse que j'évoquais tout à l'heure, dans l'ouvrage notamment de Vivien Lévy-Garbois, ou encore celle de notre ami Pascal Blanquet, avec son regard de philosophe sur l'économie. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette dernière insertion que je rappellerai celle du philosophe qui, depuis longue date, regarde l'entreprise avec intérêt, je veux parler de André Comte-Sponville, et qui affirme que lui aussi, que si rien n'est jamais acquis, rien n'est jamais joué d'avance. Après la crise, il y a le renouveau. Sans doute que cette nouvelle humilité qui ressort de différentes réflexions et analyses des auteurs à travers le monde est de nature à, en s'associant à la lucidité, à promouvoir un nouvel ordre économique mondial plus stable, plus respectueux des hommes et de leurs intérêts. L'espoir pour le capitalisme consiste donc à revenir sur ses fondamentaux en mettant les hommes au milieu du système et en conjuguant la liberté des marchés avec celle de la démocratie.